ce jeudi.
Nous sommes dimanche, Radio France Internationale, 13h en temps universel, 14h à Paris. C'est l'heure du journal de Juliette Pietraszewski. Bonjour Juliette.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une de ce journal, le Hamas appelle à négocier la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Israël va envoyer demain une délégation de négociateurs à Doha au Qatar. On fera le point sur ce que l'on sait dans un instant. À la une de l'actualité également, quel avenir pour l'Ukraine? Avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, les États-Unis pourraient également suspendre leur participation aux exercices conjoints de l'OTAN à partir de 2026, selon un journal suédois. Une information pas encore confirmée de sources officielles. En France, toujours sur fond de guerre en Ukraine, 6 Français sur 10 seraient favorables au rétablissement d'un service militaire obligatoire, selon une étude du Centre de réflexion Destin commun pour le quotidien régional Ouest-France. Et puis après la mobilisation Stand Up for Science, les universités françaises songent à accueillir les scientifiques américains. Quel avenir pour le cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Depuis la fin du mois de février, aucune libération d'otages ou de prisonniers n'a eu lieu. Le 1er mars dernier, Israël a bloqué l'entrée d'aide humanitaire dans le territoire palestinien, où les associations humanitaires redoutent que cette situation ne s'installe dans le temps. Pas de seconde phase négociée pour l'instant. Dans ce contexte très incertain, Israël a annoncé l'envoi demain lundi d'une délégation de négociateurs à Doha au Qatar. De son côté, le Hamas évoque des signaux positifs et appelle à négocier la deuxième phase de l'accord. On fait le point avec Nicolas Falaise.
La position du Hamas n'a pas varié. Le mouvement islamiste palestinien demande à négocier la fameuse deuxième phase du cessez-le-feu. Elle doit permettre de nouvelles libérations d'otages israéliens et de détenus palestiniens, le retrait total de l'armée israélienne de la bande de Gaza et la fin du blocus. Israël, soutenu par les États-Unis, campe toujours sur un autre scénario, celui d'une prolongation de la phase 1 du cessez-le-feu. Le Hamas estime avoir reçu des signaux positifs ces derniers jours. Reste que le processus suspendu est porteur du risque d'une reprise de la guerre. C'est dans ce contexte que le Hamas a diffusé cette semaine une vidéo montrant l'un des otages israéliens en vie. Ces derniers jours ont aussi été marqués par l'annonce de discussions directes entre le Hamas palestinien et les États-Unis. Une première, alors que le mouvement islamiste figure toujours sur la liste américaine des organisations terroristes. Ces discussions sont menées par Adam Buller, l'envoyé spécial américain dans le dossier des otages. Elles portent notamment sur le sort des otages israélo-américains encore détenus à Gaza.
Nicolas Falaise, et selon un ministre israélien, le plan Trump pour déplacer les Gazaouis serait en train, je cite, de prendre forme. Information de l'AFP, on y reviendra dans une prochaine édition. En Syrie, le président par intérim, Ahmad el-Sharré, appelle aujourd'hui à l'unité nationale après la mort, selon une ONG, de centaines de personnes, en majorité des civils. « Nous devons préserver la paix civile autant que possible », a déclaré le président à Damas. Cet appel intervient après 3 journées de violences communautaires sans précédent depuis la chute de Bachar el-Assad en décembre dernier. L'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, fait état de plus de 745 civils alaouites tués par les forces de sécurité et des groupes affiliés depuis jeudi. Parmi les réactions internationales, l'Allemagne a qualifié aujourd'hui de choquantes ces informations. La Russie affirme s'être emparée d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk. Moscou assure aussi avoir repris 3 villages de la région russe de Koursk. L'Ukraine affirme de son côté que la Russie a lancé plus d'une centaine de drones au cours de la nuit de samedi à dimanche sur Kiev et de nombreuses régions, à un moment crucial de la guerre, alors que les États-Unis ont gelé l'acheminement de l'aide. Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, vous le savez, et laisse planer le doute sur l'avenir de l'Ukraine. Mardi, en Arabie Saoudite, une équipe américaine rencontrera une délégation ukrainienne. Selon les Américains, cette réunion doit définir un cadre pour un accord de paix pour mettre fin à la guerre. Nous espérons discuter et se mettre d'accord sur les décisions et étapes nécessaires, a déclaré de son côté le président ukrainien Volodymyr Zelensky, rappelant que son pays souhaite la paix. Ces derniers jours ont été marqués par différentes annonces de Washington, fin des livraisons d'armes à Kiev, fin de la collaboration des renseignements américains avec les Ukrainiens. Eh bien, les États-Unis pourraient également suspendre leur participation aux exercices conjoints de l'OTAN à partir de 2026. L'information a été révélée par un journal suédois, mais elle n'est pas encore confirmée de sources officielles. De quoi provoquer la stupeur en Suède. Le pays a récemment rejoint l'Alliance Atlantique. Précision avec notre correspondante à Stockholm, Ottilia Ferré.
Les États-Unis ont notifié leurs alliés. Dès 2026, ils ne participeront plus aux exercices militaires en Europe. C'est ce qu'affirme le journal suédois Expressen. Les entraînements prévus en 2025 ne seraient donc pas affectés. Mais après cette date, la Suède et d'autres pays de l'OTAN devront faire sans les États-Unis ou alors seulement avec de petites unités américaines. Un retrait qui inquiète en Suède à l'heure où la menace russe voisine s'intensifie. L'actualité est notamment rythmée par des ruptures de câbles de communication en mer Baltique. Le suspect numéro un dans ces sabotages, la Russie. Les militaires américains participaient régulièrement à des exercices en Suède et en Scandinavie, et ce, bien avant l'entrée du pays dans l'OTAN, car ils permettaient de s'entraîner dans des conditions hivernales. Mais Trump déclare à présent qu'il préfère donner la priorité à la région Indo-Pacifique, ce qui signifie cibler en premier lieu la Chine. Ottilia Ferré, Stockholm, RFI.
Et toujours sur fond de guerre en Ukraine, en France, selon une étude du Centre de réflexion Destin commun pour le quotidien régional Ouest-France, 6 Français sur 10 sont favorables au rétablissement d'un service militaire obligatoire, avec une proportion très forte à droite et à l'extrême droite. Elisa Robuchon a recueilli quelques témoignages sur le marché Corentin Selleton à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.
Filet de sol, crevette, impeccable, mais merci.
Patrick a 61 ans et comme 6 Français sur 10, pour lui, le service militaire est une bonne idée.
Ce ne sera pas une mauvaise chose, puisque ça donne un peu un cadre aussi pour les jeunes dans la vie.
S'il a été réformé à son époque, ce n'est pas le cas de Hugues, aujourd'hui directeur des achats.
Moi, je l'ai fait dans les années 86, dans les chasseurs alpins.
Et vous en avez quel souvenir ?
Merveilleux, en fait.
Alors pour lui, le rétablir est une évidence.
Le service militaire, à mon époque, 80% des gens qui arrivaient au service militaire ne savaient pas lire et écrire. Et en fait, le service permettait de leur apprendre à lire, à avoir le permis, à être capable de s'intégrer dans la vie de la France. Je vais vous prendre de la poitrine fumée, s'il vous plaît.
À ses côtés, son fils Guillaume y est aussi favorable, conscient de la situation géopolitique.
On sait que si on laisse tomber l'Ukraine, après, Vladimir Poutine pourra s'en prendre à d'autres pays européens.
Difficile sur ce marché de trouver des voies opposées. Caroline, 36 ans, est venue avec sa fille.
Je pense que l'armée, c'est un métier. C'est de plus en plus technologique, c'est de plus en plus précis. Et en fait, ça nécessite d'avoir des compétences que, comme ça, on ne peut pas forcément acquérir.
Selon ce même sondage, 60% des Français jugent probable l'invasion d'autres pays européens par la Russie.
Un reportage signé Elisa Robuchon. Au large des côtes iraniennes, les forces maritimes de l'Iran, de la Russie et de la Chine vont mener des exercices militaires ce mardi. L'objectif affiché est de renforcer la sécurité régionale, selon un média iranien ce dimanche. Les trois pays partagent une volonté commune de contrer ce qu'ils présentent comme l'hégémonie américaine et ont déjà fait des exercices similaires dans la région. Depuis son investiture, Donald Trump a aussi pris un ensemble de mesures choc concernant la recherche scientifique et son financement aux États-Unis. L'indignation de nombreux scientifiques s'est fait sentir. Un mouvement a même vu le jour, la mobilisation Stand Up for Science. Le 7 mars, plusieurs rassemblements ont eu lieu pour défendre la science en tant que bien commun et pilier du progrès social, politique et économique. Et dans ce contexte, les universités françaises songent à accueillir les scientifiques américains. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche leur a demandé de réfléchir aux modalités, Simon Rosé.
C'est un courrier envoyé aux centres de recherche et aux universités avec une consigne, réfléchir à comment accueillir les scientifiques américains désireux de quitter les États-Unis. Le monde académique y fait en effet face à une attaque brutale entre suppression massive de postes et de financements, censure de sujets d'études, particulièrement visées les sciences dites de la durabilité, liées au climat, à l'environnement ou à l'étude des discriminations. Les scientifiques européens et français avaient appelé ces derniers jours leur gouvernement à soutenir leurs homologues américains. Cette lettre et cette demande marquent un premier pas en ce sens, mais un pas bien timide comparé à ce que l'on a pu voir il y a 8 ans. Donald Trump, alors dans son premier mandat, quittait pour la première fois les accords de Paris et Emmanuel Macron lançait un appel « Make our planet great again », rendre à notre planète sa grandeur, en écho au slogan de campagne du président américain. Annonce en grande pompe d'un programme similaire d'accueil de scientifiques. L'initiative a cependant produit des résultats mitigés. 42 chercheurs avaient alors posé leur valise dans les laboratoires français avant que l'invitation ne soit retirée 3 ans après.
Simon Rosé. En Australie, les suites de la tempête Alfred sur la côte Est, initialement cyclone, phénomène rare dans la région, puis rétrogradé en dépression tropicale. Les conséquences sont toutefois nombreuses, avec près de 330 000 foyers sans électricité, de fortes précipitations faisant gonfler les rivières. 13 soldats australiens ont par ailleurs été blessés hier dans un accident impliquant 2 camions militaires en mission de secours.